Vous écoutez RTL.
7h44, merci d'écouter RTL, excellente journée à tous. Elisabeth Martichoux, vous recevez donc ce matin Sophie Cluzel, secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé des personnes handicapées.
Bonjour Sophie Cluzel.
Bonjour.
Dans quelques instants, Louis Van Prosdy va nous rejoindre, il est entrepreneur tétraplégique, il nous le dira ce qu'il pense de cette journée Duodée. On rappelle en quelques mots, Duodée, ça consiste à se faire accompagner toute une journée dans son entreprise par un handicapé, une sorte de stage de 24 heures pour évidemment donner de la visibilité. Vous-même, vous êtes en duo aujourd'hui comme combien, 26 membres du gouvernement, c'est ça, 27 en tout avec vous?
Oui, avec le Premier ministre aussi, le Président de la République. Vraiment, tout le monde a joué le jeu pour pouvoir changer le regard sur le handicap. Et moi-même, je suis accompagnée d'Alexandra, qui est une...
Alexandra qui est là aussi. Bonjour Alexandra.
Bonjour.
C'est important pour vous, Alexandra, cette journée? Ou c'est un gadget, comme je le disais tout à l'heure? Est-ce que ça sert à quelque chose ou c'est une forme de bonne conscience collective qu'on se donne comme ça une journée par an?
Non, je pense que c'est vraiment une très bonne idée pour donner une belle visibilité de l'handicap, en fait, pour tout le monde, en fait. Parce que moi, personnellement, quand j'ai...
On peut dire de quel handicap vous souffrez, Alexandra, pour nos auditeurs?
Je souffre de troubles bipolaires.
Ouais. Et vous trouvez important, donc, que des personnalités publiques montrent que dans l'entreprise... Bah, vous montrent d'abord comment on travaille dans l'entreprise, parce que c'est difficile d'accéder pour un handicapé à l'entreprise.
Exactement, en fait. C'est très difficile d'accéder à une entreprise pour un handicapé. Et c'est très bien qu'il y ait une journée où on peut vraiment voir comment les gens travaillent, en fait, et pouvoir être insérés et... participer à une vie d'un ministre, par exemple.
Mais vous, en tant que bipolaire, donc j'imagine traité, aussi sous médicaments, etc., c'est difficile de trouver un emploi?
Oui, j'ai un handicap invisible, mais malheureusement, j'ai des
handicap
trous...
Handicap invisible.
Voilà. Ouais. Mais malheureusement, j'ai des trous dans mon CV, et donc c'était très difficile pour moi d'accéder à un emploi avant que je ne demande un RQTH, la reconnaissance qualité travailleur handicapé.
Des trous, c'est-à-dire des absences, effectivement, pour hospitalisation ou traitement prolongé, c'est ça que vous voulez dire?
Exactement.
Et dans ces cas-là, c'est un handicap, j'allais dire, c'est pénalisant, évidemment, quand un recruteur vous reçoit.
Exactement.
Et c'est considéré comme un handicap, Sophie Cluzel?
Ah, complètement. Ça fait partie de 80% des handicaps qui sont invisibles, je rappelle. C'est pour ça que c'était important de pouvoir faire de la pédagogie de que représentent ces handicaps psychiques, ces handicaps qui pénalisent une carrière, qui permettent, comme l'a dit très justement Alexandra, d'avoir des trous dans son CV. Et si on n'en parle pas, on ne comprend pas. Donc il y a une vraie mésentente entre les chefs d'entreprise et les salariés qui souffrent de ces troubles psychiques au sens large. Et je rappelle que 80% des handicaps sont invisibles.
Oui. Donc, 80% des handicaps sont invisibles.
Oui.
Un handicapé sur trois travaille contre deux personnes valides sur trois en France. Une entreprise sur trois répond à l'obligation de 6%. Il y a un quota. Un quota, c'est une contrainte. Est-ce que c'est vraiment le meilleur moyen de surmonter ce frein culturel qui existe en France pour l'emploi des handicapés?
Beaucoup de pays d'Europe ont un quota. Aujourd'hui, 30 ans après la loi de 87, au lieu d'être à 6%, nos entreprises sont à 3,5%. Donc on ne voit pas que c'est assez. C'est pour ça qu'il faut faire de la pédagogie positive. C'est pour ça que j'ai lancé la grande réforme sur la concertation. On est en train de concerter pour pouvoir réformer l'obligation d'emploi, en faire quelque chose de beaucoup plus simple pour les entreprises. Aujourd'hui, c'est hyper complexe. Quand vous faites une déclaration, vous avez 80 items.
80 questions administratives auxquelles les patrons doivent répondre pour avoir l'autorisation d'emploi. 80.
Non, c'est pas pour avoir l'autorisation, c'est pour déclarer.
Donc c'est complètement dissuasif.
Oui, c'est beaucoup trop lourd.
C'est décourageant.
Administrativement, c'est décourageant. On va simplifier.
C'est-à-dire, vous allez réduire de façon basique à combien de quoi,
eh bien, on
10
veut juste,
obligations
on veut, Non, on veut juste avoir l'emploi direct et quelques déductions par rapport aux achats que l'on peut faire, les achats d'irresponsables auprès de l'entreprise adaptée. Mais l'idée, c'est de pouvoir faire de la pédagogie positive, inciter les entreprises. On a beaucoup de leviers. Je viens de recevoir un dossier sur des propositions de RSE avec la plateforme RSE, donc par la responsabilité sociétale des entreprises, on a des leviers. Et on travaille justement avec Muriel Pénicaud pour simplifier, pour faire de la déclaration automatique et pour rendre lisible tous les opérateurs et tous les possibles.
On va en reparler. J'accueille Louis Van Prosdy qui vient de nous rejoindre dans le studio. Juste une question encore, Sophie Cluzel. Pourquoi les entreprises qui s'engagent aujourd'hui dans la lutte pour le réchauffement, contre le réchauffement climatique, pour des grandes questions éthiques, pourquoi est-ce qu'elles ne se saisissent pas de ce sujet? Parce que ça ne fait pas de pub? Parce que
non,
ça n'améliore pas pas l'image de l'entreprise.
Toutes les entreprises du CAC 40 viennent faire une magnifique tribune pour dire on peut faire beaucoup plus et beaucoup mieux. Elles sont mobilisées. Je pense que c'est l'occasion ou jamais de pouvoir les mobiliser. D'ailleurs, elles participent au DOD. Je pense que ça change le regard sur le handicap. Ça permet de voir le talent, les compétences des personnes. C'est un mouvement qui est en train de changer complètement.
Louis van Spensdy, donc bonjour. Merci beaucoup de nous avoir rejoints dans ce studio d'RTL. On est très heureux de vous accueillir. Quelques mots d'abord sur vous. Vous êtes conseiller en transition numérique. Vous intervenez dans les entreprises. Vous êtes tétraplégique depuis vos 16 ans quand vous plongez dans une piscine où il n'y a pas assez d'eau. En pleine adolescence, vous passez un an à l'hôpital avant de pouvoir reprendre des études. Et donc, vous avez 50 ans aujourd'hui, vous êtes chef d'entreprise. Ça a été long de retrouver votre énergie à ce moment-là, quand vous êtes adolescent et que vous avez cet accident ?
En fait, j'ai pas trop le temps de me poser la question parce qu'en fait, je poursuis mes études. Et donc, finalement, j'ai enchaîné assez rapidement. C'est seulement une dizaine d'années après que j'ai eu un effet d'espèce de passage à vide où je me suis rendu compte du parcours effectué. Mais sur le coup, je m'en suis pas spécialement rendu compte.
Mais est-ce qu'il faut pas plus d'énergie, évidemment, en moyenne, pour arriver à faire des études dans un contexte, on va en parler avec Sophie Cluzel, où c'est plus compliqué pour tout?
Oui, clairement, ça demande beaucoup d'énergie. J'ai eu la chance d'en avoir et je pense qu'on n'a pas tous cette chance-là. Et c'est pour ça qu'il est très, très important de faciliter, en tout cas d'alléger les parcours, parce que beaucoup restent à la porte des études, parce qu'ils n'ont pas forcément le contexte familial stimulant, ils n'ont pas forcément l'énergie eux-mêmes de le faire. Et on ne peut pas leur en vouloir. C'est juste qu'il y en a qui ont plus d'énergie que d'autres. Et ceux qui aujourd'hui arrivent à passer les différentes barrières sont ceux qui en auront eu plus que d'autres, beaucoup plus que d'autres.
Alors on ne va pas se mentir, Duodet, quand je vous ai appelé, vous ne connaissiez pas. C'est une initiative qui existe depuis 3 ans. Vous la découvrez, vous êtes renseigné depuis. Utile ou pas ?
Ah, je trouve ça extrêmement utile parce qu'effectivement, on parle de l'intégration, on parle du fait de pouvoir prendre conscience des problèmes des uns et des autres. Et donc, c'est une démarche qui me semble extrêmement, extrêmement efficace. Et effectivement, malheureusement, je ne la connaissais pas, mais je ne suis pas un expert du handicap non plus. Je suis concerné par le handicap, mais je ne suis pas un expert.
Mais vous dites que c'est important de se connaître les uns les autres parce que sont deux populations étrangères l'une à l'autre ?
Non, pas forcément, mais les hasards de vie, les parcours font que tout le monde n'a pas forcément été confronté au handicap et n'a pas forcément conscience à la fois des difficultés que représente le handicap pour quelqu'un qui le vit au quotidien. Et dans l'entreprise, souvent, il y a des freins qui sont simplement des freins de méconnaissance, d'inquiétude par rapport à ce handicap. Alors que quand on a
des inquiétudes qui portent quoi ? Sur la complexité, sur d'abord toute l'adaptation que nécessite l'accueil d'un handicapé dans une entreprise, et puis une forme de crainte quand même, non ? Vous m'aviez cité une étude quand on s'est parlé, qu'on ne connaît pas, sur l'absentéisme. L'absentéisme, par exemple, est moins important chez les personnes handicapées que chez les personnes valides.
Oui, alors je vous disais que je n'étais pas un expert effectivement du sujet du handicap, mais de mémoire de ce que j'avais pu lire par le passé, j'ai cru lire à plusieurs reprises qu'effectivement le taux d'absentéisme des personnes en situation de handicap est inférieur à la moyenne, et qu'on a également des gens qui en général sont plus productifs et beaucoup plus motivés, et qui en fait sont des moteurs pour les gens autour d'eux.
Exactement ce que me disent tous les chefs d'entreprise quand ils ont démarré justement cette rencontre et que derrière il y a une embauche, ils disent que ça impacte tout le collectif de travail positivement. Donc c'est ça que l'on veut chercher, c'est justement que cette rencontre, parce qu'en fait il y a une peur, il y a une appréhension au début, et quand vraiment ça démarre, après tout est beaucoup plus facile. Donc il faut qu'on puisse faire cette rencontre.
Il y a une phrase d'Einstein qui est citée sur le site de cette opération du DOD. Il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé. Ils sont encore extrêmement forts. Philippe Croizon, qu'on connaît bien, qui est cette personne charismatique et extraordinaire qui a fait des exploits sportifs malgré ses handicaps, il raconte que quand il fait une conférence pour raconter ses exploits, il fait ça le comble, et que quand il vient dans une entreprise pour parler insertion emploi, il n'y a plus personne. Il y a 3 personnes dans la salle, alors que c'est le même, c'est le même Philippe Croizon avec le même charisme.
C'est pour ça qu'il faut parler de la personne et pas de son handicap et de ses talents et de ses compétences. C'est bien changer le regard sur le handicap qui est le maître mot sur le DOD. Donc je pense qu'en effet, c'est un événement important. Pourquoi vous n'en avez pas entendu parler ? Parce que c'était assez régional jusqu'à présent, et je tiens à saluer le Lot-et-Garonne qui a porté depuis 3 ans. C'est nos amis irlandais. Ça ne se passe pas qu'en France, le DOD. C'est européen, en Irlande, en Belgique, en Corée du Sud, puisque l'ambassadeur a lancé le DOD suite aux Jeux Paralympiques. Il a vu l'importance de changer le regard sur le handicap. En Nouvelle-Zélande, voilà. L'idée, c'est de pouvoir amplifier cette journée pour donner envie vraiment aux chefs d'entreprise de regarder différemment la personne en situation de handicap.
Alors, Louis van Prost dit, pour vous, la clé, malgré tout, c'est l'école. C'est ça qui permettra vraiment l'intégration, ce qu'on appelle l'inclusion des personnes handicapées.
Oui, oui, d'ailleurs, c'est valable dans tous les domaines et pas que le handicap. Hein. Je pense que quand on est confronté dès l'école à vivre ensemble en termes de handicap ou de culture, je pense que c'est un élément essentiel pour ensuite pouvoir construire une société où on a conscience les uns des autres et où les choses se passent de manière beaucoup plus efficace. Donc oui, l'école est la clé et toutes les démarches qui ont été entreprises ces dernières années sur l'accueil beaucoup plus, mieux structuré d'enfants handicapés visant à réduire petit à petit le nombre d'enfants qui étaient cloisonnés dans des établissements spécialisés est vraiment très très important. Oui.
Par exemple, pour vous, l'aberration, c'est les écoles spécialisées.
Non, c'est pas une aberration, parce que je pense que malheureusement, il y a des handicaps qui sont extrêmement lourds, avec des suivis médicaux qui
nécessitent
sont très importants,
ça.
Et on ne pourra pas s'affranchir d'avoir des établissements spécialisés. En revanche, il est important que des enfants qui peuvent être scolarisés dans un milieu ordinaire puissent l'être au maximum, et finalement de réserver les établissements spécialisés qu'à des enfants qui seront malheureusement encore en besoin d'un suivi beaucoup plus important.
Oui, mais par contre, ces établissements spécialisés, on peut les mettre à côté des écoles. C'est ça, c'est vraiment la mixité que l'on cherche. C'est changer le regard depuis la petite enfance. Quand je suis allée dans d'autres pays d'Europe, il n'y a des établissements, il n'y a qu'une seule entrée, c'est l'école de la République, et après, il y a des solutions différentes. Et on peut mettre ces plateaux, ces établissements spécialisés au sein des groupes scolaires. C'est l'école de demain qu'on est en train de bâtir avec Jean-Michel Blanquer, déplacer le centre de gravité du médico-social dans les murs de l'école. Faire cette école inclusive, faire cette entreprise inclusive, donner les moyens de circuler aux personnes bien accompagnées. Il faut qu'on sécurise les parcours, ça c'est très important.
Vous disiez qu'il y a une concertation en ce moment sur un projet de réforme pour améliorer effectivement l'accès à l'emploi des personnes handicapées, commencer par simplifier. Est-ce que l'obligation d'emploi va demeurer et est-ce qu'elle va toucher également les entreprises de moins de 20 personnes, puisqu'aujourd'hui, ça n'est pas le cas?
Alors en fait, il y a un consensus pour dire que ce quota de 6% est quand même incitatif. On l'a vu dans les gros groupes, il y a eu une culture handicap qui s'est installée à travers les missions handicap. L'objectif, c'est de ne pas charger les entreprises de moins, mais par contre, les inciter à déclarer. C'est tous concernés, nous
déclarons
tous.
L'objectif, c'est de ne pas...
Que les moins de 20, nous ne touchons pas.
Les moins de 20 personnes.
De moins de 20 personnes ne contribuera pas financièrement. En revanche, je souhaiterais qu'elles déclarent, parce que dans les TPE, il y a déjà plus de 80 000 personnes handicapées qui sont embauchées dans les TPE. Elles font déjà beaucoup. Il faut qu'on le sache, c'est tout. Donc simplifions énormément la déclaration pour que ça soit juste, je coche ma case. Oui, j'ai une personne handicapée, comme ça on le saura. On pourra faire des statistiques beaucoup plus fines. Donc avoir une vraie vision des besoins des entreprises, parce que ce n'est pas que la personne qu'il faut accompagner, c'est l'entreprise. Le collectif de travail.
Et il y a des entreprises qui réduisent les amendes en signant des accords de partenariat avec des associations d'insertion. Vous dites quoi, c'est trop facile?
Non, c'est pas du tout trop facile. Il y a des entreprises en France, on a un panorama, c'est comme les établissements spécialisés dont monsieur parlait. On a des entreprises dites de travail un peu protégées, adaptées. Elles font un bon boulot, mais ça ne représente que 120 000 personnes. Et donc celles-là, il faut les accompagner. Ça devrait être des passerelles à l'emploi pour les personnes qui ont le plus besoin justement d'encadrement. Pour autant, elles ont toute leur place dans le panorama. Et en effet, un chef d'entreprise qui fait appel à ses achats responsables, comme on dit, doit pouvoir en effet les déduire. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus.
Louis Van Prosdy, qu'est-ce qui vous a le plus aidé pour finir, pour conclure, vous, pour votre insertion en entreprise? Et qu'est-ce que vous recommandez?
Je ne suis pas un très bon exemple parce qu'en fait, moi, j'ai créé ma première entreprise juste après mes études et je suis un serial entrepreneur, entre guillemets. Je pense que ce qui m'a aidé, c'est une drôle de question, je ne m'y attendais pas du tout. je crois que ce qui m'a aidé, c'est d'avoir beaucoup d'énergie, d'être très résilient. J'essaye aujourd'hui, comme je peux, de transmettre ça et de voir de quelle manière on peut faire en sorte que des gens qui ont un peu moins d'énergie, qui sont un peu moins résilients, ne restent pas à la porte.
Merci beaucoup Alexandra, merci beaucoup Louis Van Prosdy et Sophie Cluzel d'avoir été ce matin dans ce studio pour parler du Duo Day.
Et donc ce matin sur RTL, c'était Trio Day, puisqu'en plus de l'amitié, nous étions avec Alexandra et Louis Van Prosdy. Merci à tous les trois, l'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr.